résidence du mercredi à jeudi de 21h à minuit, le vendredi de 23h à minuit et le samedi Megamix de 19h à minuit. Au Café Dance New Wave, tous les mercredis de 21h15 à 22h, c'est la découverte des nouveaux talents, des nouveaux sons, des Congolais ici et d'ailleurs.
Vous savez, certains malades, au stade terminal de leur vie, sont délaissés par les membres des familles. Ces personnes étaient à l'hôpital et après, les médecins ont déclaré qu'il n'y a plus d'autres solutions. Ils doivent s'attendre à la mort. Alors, ces malades sont envoyés à la maison. Alors, ils sont souvent délaissés, abandonnés par les membres des familles. Ils sont mal nourris, ils ne sont pas presque pas lavés au quotidien. Pourtant, une mauvaise hygiène de ces personnes peut occasionner d'autres maladies, l'apparition d'autres maladies au sein de la famille. Alors, comment prendre en charge, disons, comment assister les personnes qui sont malades et qui sont au stade terminal, presque à la fin de leur vie. Sûrement, la famille s'est occupée de ces personnes pendant plusieurs mois. On a déboursé beaucoup d'argent. À un moment donné, on se sent fatigué. On abandonne ces personnes. Alors, faut-il les abandonner ou pas? Voilà, nous allons aborder toutes ces questions avec nos invités. Nous avons lancé studio à ma sœur Odile Marchand, responsable des soins palliatifs à domicile de la communauté du Magnifica. Nous avons également la sœur Albertine Matafouali, infirmière superviseure au programme des soins palliatifs de la communauté du Magnifica. D'abord, qu'est-ce qu'on entend par soins palliatifs, ma sœur Odile Marchand?
Oui, eh bien, ce qu'on appelle soins palliatifs, ce sont des soins qui sont donnés à des malades quand la médecine ne peut plus rien. Ce ne sont pas des soins qui pourront encore curatifs, qui vont encore le guérir. Ce ne sont pas non plus des soins préventifs. La maladie est là. Mais ce sont des soins symptomatiques qui vont soulager le malade. Mais des soins qui ne s'arrêtent pas aux soins médicaux, mais qui vont beaucoup plus large. Les soins d'hygiène, l'accompagnement psychospirituel de la personne, c'est ce qu'on appelle des soins holistiques.
Voilà, soins holistiques. Sœur Albertine, qu'est-ce qui a poussé votre communauté à administrer ces soins aux malades qui sont au stade terminal de leur vie?
Bon, la communauté du Magnificat était une communauté chrétienne qui était frappée par la compassion des malades qui sont à domicile, qui ne reçoivent pas de visite. C'est un appel que la communauté a reçu pour aider ces malades-là, pour les assister. Parce qu'ils ont besoin, comme nous, de certaines réalités des choses pour vivre leur vie. Dans cette vie-là, leur donner une qualité de vie sur le plan physique, sur le plan moral, spirituel. Ils sont dignes de mériter tout ça. Et c'est un appel de la communauté à faire ça comme évangélisation. Nous avons pris ça comme un acte d'évangélisation.
Est-ce que vous vous occupez de ces malades parce que leurs familles les ont abandonnés?
Bon, parmi les malades-là, il y a des malades qui sont abandonnés, il y a des malades qui sont assistés par leur famille, mais la famille ne sachant pas que faire. C'est ainsi que la communauté a déployé des infirmières et des accompagnatrices pour aider la famille, parce que c'est une action totalement communautaire. Ce n'est pas fait seulement par les infirmières des Magnificat, mais par la famille aussi.
Alors, Sœur Odile, vous savez, la personne est malade, le membre de famille est malade pendant plusieurs jours. On a beaucoup dépensé, on s'est occupé d'elle. À un certain moment, la fatigue s'installe, on se sent aussi fatigué, c'est un poids. Et sûrement, les membres de la famille ont tendance à l'abandonner.
Oui, bon, moi je dirais pas tellement qu'ils l'abandonnent, mais ils sont tout à fait dépassés et ne savent plus quoi faire. C'est pour ça que une partie de notre travail, c'est un travail d'éducation. C'est-à-dire, nous allons montrer aux membres de famille qui s'occupent du malade, par exemple, comment laver le malade. Nous allons le faire devant eux. Comment assurer ses soins d'hygiène pour qu'il soit dans un environnement propre, que lui-même retrouve sa dignité en étant propre. Nous allons donner des calmants, parce que la plupart de ces malades souffrent de fortes douleurs. Et alors, ne dorment pas la nuit et la famille ne dort pas. Nous donnons des calmants, le malade peut dormir toute la nuit, la famille peut aussi se reposer. Nous accompagnons, ça veut dire nous écoutons et le malade et la famille. parce qu'elle a aussi, quelquefois les membres de famille ont encore plus de soucis que les malades eux-mêmes.
Voilà. Alors, sœur Albertine, alors que s'il faut donner les soins palliatifs, par où faut-il commencer? Avec quel type de soins faut commencer?
Bon.
Au niveau de la famille.
Au niveau de la famille, nous commençons par les soins d'hygiène. Parce que l'hygiène est très important. La famille n'étant pas, il n'y a pas ni l'infirmière, il n'y a pas un médecin. Nous donnons d'abord les soins d'hygiène. Parce que les malades, parfois, qu'on trouve là-bas, s'il y a des parents ou les familles qui ne nous montrent pas les malades, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas. Ils ont honte. Les malades, s'ils les suyaient, il a mouillé tout son lit et ça sent mauvais. Ils n'auront pas, la famille n'aura pas vraiment le désir de dévoiler leur malade pour que les autres le voient. Nous commençons par les mesures d'hygiène. Et si ce malade-là a une souffrance telle la douleur ou quoi, nous intervenons aussi pour aider les malades à se sentir mieux. D'abord, les mesures d'hygiène. Parce qu'un malade aussi qui a des douleurs, un malade qui est dans un milieu très sale, ils ne se sentent pas à l'aise. On doit les mettre à l'aise.
Alors, quel est un témoignage concret, par exemple, d'un dernier cas dont vous vous êtes occupé, sœur Albertine?
Oui, il y a un dernier cas que il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup, bien
mais
sûr.
Mais je prends un seul cas. Un jeune homme qui avait des enfants, abandonné par son épouse, parce que l'épouse, ayant compris le diagnostic de son mari, il a quitté le mari.
Il souffrait de quoi, le jeune homme?
Bon, il était séropositif.
Séropositif, oui.
Il était séropositif et au stade maladie. Alors l'oncle, par amour pour son neveu, l'a pris chez lui. Mais au lieu de le mettre dans la maison, le type était tout près de la poubelle.
Derrière la maison?
Derrière la maison. Rempli de mouches. Il était une ordure, je peux dire, à ce moment-là. Et on nous a signalé qu'il y avait un malade derrière la maison. Nous sommes allés le voir. On l'a vu, mais il parlait encore. On a demandé à la famille si on pouvait nous donner un seau, on pouvait nous donner un morceau de tissu. Et là où le mettre, bon, il n'avait pas de morceau de tissu.
Il n'y avait pas de lit, rien du tout. Il était par terre, abandonné par terre derrière la maison.
Par terre, c'est une ordure, je peux vous dire, tout près de la poubelle. On a cherché, on a mendié un peu. Nous avons acheté un petit bassin, on a eu de l'eau, on l'a lavé. Après l'avoir lavé, nous avons demandé à l'oncle si on pouvait nous donner un endroit pour le mettre. Nous avons acheté une natte, l'oncle a accepté, on l'a mis
sur la natte.
Sur la natte dans le petit salon, oui, on l'a mis là-bas. Deuxième jour, on devrait rentrer pour le laver. Et l'oncle qui nous dit, non. Vous ne connaissez pas mon neveu. Vous l'avez lavé. Moi-même, je vais continuer à le laver. Et ce monsieur nous a dit, merci beaucoup. Vous êtes béni pour me laver, pour que je puisse mourir propre.
Et c'est ce qu'il vous a dit?
Oui. Ce sont ses paroles à lui, 3 jours avant sa mort.
Voilà. Mais est-ce que vous lui avez donné aussi des produits, des médicaments pour calmer la douleur? Est-ce qu'il y avait également ça?
Il faisait la diarrhée.
Oui.
Nous avons commencé par une solution. Nous avons fait l'eau de riz. On a acheté un petit riz. On a préparé, on a pris de l'eau. On lui a donné. On lui a donné l'opéramide pour calmer un peu sa diarrhée et le sérum oral. On a essayé de le réhydrater le premier jour. Le deuxième jour, il était enfant, il pouvait parler. Parce qu'il nous a parlé le deuxième jour.
Est-ce qu'il a pu manger quelque chose?
Oui. On lui avait donné quelque chose. Et c'est à partir du deuxième jour que la famille a pris soin de ce monsieur-là.
Jusqu'à sa mort,
il y a eu réconciliation et nous étions très contents parce qu'il y a eu réconciliation. L'oncle a demandé pardon à son neveu et le neveu a demandé pardon et il a même pardonné à son épouse. Il a dit s'il pouvait venir, ne fût-ce que m'assister 30 minutes, ça serait mieux, mais je la pardonne.
Sœur Odile, à part cela, qu'est-ce qu'il faut faire par l'hygiène? Quels sont les autres types de soins qu'il faut administrer à une personne au stade terminal?
Nous avons parlé des soins d'hygiène, nous avons parlé des soins médicaux. Moi, j'ajouterai l'éducation de la famille. Nous avons même des petits manuels, des boîtes à images avec des dessins où on montre comment donner les soins d'hygiène, comment et quoi faire pour éviter de se contaminer. Parce que si beaucoup de malades, si certains malades sont plus ou moins négligés de la famille, oui. c'est pas peur, la peur de la contamination.
La contamination, ouais.
Oui. Alors, comme Mme Albertine a dit, si l'oncle a commencé à s'occuper de son neveu, c'est parce qu'il a vu que elle a osé le toucher. Mmh. Donc, c'est ce que nous faisons. Et alors, j'ajouterai l'accompagnement psychospirituel. Écouter le malade, écouter la famille, que chacun puisse vraiment arriver à sortir celui qui fait le mal dans son cœur. Et lui dire qu'est-ce qui fait le plus mal dans cette situation-là.
Mmh. Alors, vous ne trouvez pas que ça demande un peu plus de moyens pour s'occuper de la personne malade?
Oui, les soins palliatifs demandent évidemment de l'argent parce qu'il nous faut des médicaments, il nous faut des mousses quand les malades sont par terre, des alaises en plastique, des alaises en tissu, quelquefois un petit complément de nourriture, un essuie-main. Mais en dehors de ça, cela demande plus un investissement humain. Il faut du temps et surtout, il faut de l'amour. C'est pas n'importe qui peut faire ce travail-là. Hein, il ne faut pas arriver là à l'air dégoûté ou l'air supérieur ou quoi. Hein. Il faut vraiment des personnes qui ont du cœur et qui sont attirées par... Chacun a une vocation. Hein. Il y en a qui font ça très bien, il y en a d'autres qui ne sont pas faits pour ce travail-là. Chacun a son don et son charisme.
Vous voulez participer à cette émission, vous avez des questions, appelez au 081-890-63-79, n'appelez pas au 63-94, composez plutôt les 081-890-63-79 pour participer.
C'est parce que Radio Kapi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission. Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. A vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur internet, radiocapi.net.
Comment assister les malades au stade terminal de leur vie à domicile? Alors, sœur Odile, vous avez parlé de l'éducation de la famille. Alors, qu'est-ce que la famille doit savoir? Quelles sont les notions que vous leur donnez exactement? Quel est le message que vous donnez à la famille par rapport à ces types de soins?
Eh bien, le message que nous donnons, c'est comment s'occuper d'un malade alité. C'est pas seulement les malades en phase terminale, ça peut être les parents qui deviennent vieux, ça peut être même quelqu'un qui a été opéré, qui a besoin qu'on le lave et qu'on s'occupe de lui. Donc, on leur apprend comment s'occuper d'une personne alité. Ça veut dire comment faire sa toilette sans que le lit soit complètement inondé.
Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Il faut utiliser un linge?
Non, on utilise un essuie-main, un gant de toilette, mais on montre comment faire en commençant par le visage, le corps, etc., par les différentes parties du corps, comment tourner le malade pour éviter qu'il développe des escarres.
Comment le tourner? Comment vous faites?
Pour le tourner?
Oui.
Mais on montre, soit avec les mains, soit avec la laisse, on retourne le malade. Le malade
doucement, il faut le faire doucement. Ouais.
Oui, doucement, mais ça n'est pas compliqué et lourd quand on sait comment faire. C'est pour ça que les infirmières vont montrer ça aux familles, parce que c'est ce qu'on apprend dans les écoles d'infirmières.
Tout à fait.
Et nous apprenons comment faire pour ne pas se contaminer. Donc en mettant, par exemple, quand on touche le linge souillé ou qu'on fait la toilette intime, il faut mettre soit des gants, soit des sachets en plastique pour éviter de se contaminer. On essaye de trouver des solutions pour l'incontinence. C'est ça le grand problème.
Ah, le grand problème, surtout si le malade fait la diarrhée à tout moment ou est en train d'uriner à tout moment. Oui.
Voilà.
Alors, quelle est la solution vous préconisez à ce moment-là?
Bon, les quelques familles, mais elles sont rares, qui ont beaucoup de moyens, peuvent acheter des pampers. Mais ça, c'est exceptionnel parce que une pampers pour adulte à Kinshasa coûte $1.50. Donc, s'il en faut 3, 4, 5 par jour, vous imaginez...
C'est tout un budget, oui.
Alors, pour les hommes, nous utilisons ce qu'on appelle des péniflos. Ce sont des espèces de préservatifs qui sont reliés à une poche à urine que nous mettons sur le sexe du malade, si bien que les urines ne vont pas souiller le lit. S'il n'y en a pas, on peut même utiliser un urinal ou même une bouteille en plastique dans laquelle on met le sexe de l'homme.
Et les urines sont canalisées.
Oui, ça va dans la bouteille et on vide régulièrement. Pour les femmes, nous utilisons principalement, on fait comme pour les enfants, vous savez, des langes lavables. On en met deux, avec des cache-couches en plastique. C'est pour les femmes, nous utilisons surtout ça. Il n'y a pas d'autre solution.
Pas d'autre solution. Bien, nous avons quelques certains auditeurs qui nous ont écrit. Il y a Kambale Runzu de Manono. Il s'appelle Kambale Runzu Maneno. Il nous a écrit depuis les territoires de Béni. Il dit surtout, ce sont les personnes dont l'âge est avancé qui sont délaissées par les membres de la famille, car on les considère comme vulnérables. Alors, notre gouvernement, il revient au gouvernement de bien protéger les personnes des troisième âge. Il semble que ces personnes aussi sont abandonnées, sœur Albertine.
Oui, quand on devient vieux, on est stigmatisé aussi, même par les petits-fils, même par les enfants. Avec notre culture, on atteint un certain âge, on devient sorcier.
Et on vous abandonne.
On vous abandonne, les sorciers, on les met à côté, à l'écart, ils n'est pas avec les autres. Mais ces gens-là aussi, ils méritent d'être soigner, d'être accompagné, d'être écouté comme tout le monde. Et si nous arrivons dans une famille pareille, nous écoutons aussi la famille, pourquoi ils font ça. Ils vont nous dire pourquoi et on cherche des solutions pour qu'il y ait réconciliation, qu'ils les retrouvent, qu'ils les reconnaissent, leur père ou leur grand-père, pour qu'ils puissent prendre soin de lui.
Par exemple, ils disent que c'est lui le sorcier qui aurait, par exemple, mangé, comme on l'a dit ici, tous les enfants qui étaient morts avant, c'est pour cela qu'on l'a abandonné dans sa situation.
Oui, on a eu certains cas comme ça, mais qui ont abouti à une solution.
Racontez-nous comment c'était.
Bon, quand Maman dit là parler d'écouter la famille. On les a demandé combien, qu'est-ce que vous pensez, parce qu'on dit les grands-pères ou la maman et les sorciers, parce que l'autre, son fils, est revenu de l'Europe. On les a mis ensemble, on les a écoutés à l'écart
du malade.
Du malade.
Okay.
On les a écoutés, chacune a parlé.
Qu'est-ce qu'ils avaient dit?
L'autre a dit, non, moi, parce que j'avais rêvé. J'avais vu maman. Elle était en Europe. Elle avait rêvé sa maman qui lui disait tu devrais revenir au Congo. Et le lendemain, je me suis retrouvée refoulée. Donc, ma mère est sorcière. Et l'autre a dit non, moi je ne travaille pas. Je suis allée dans une église de réveil. On m'a dit c'est ta mère qui est à la base de tout ça. On a raconté. Mais, au fait, et après, on a dit bon, maintenant c'est la maman. Vous êtes revenu. Elle est revenue de l'Europe. Toi, tu ne travailles pas. Mais c'est ta mère.
Elle est malade aujourd'hui.
Elle est malade. Elle est vieille. Elle a besoin de soutien. Qu'est-ce que vous pensez maintenant? On nous a répondu. Vous rentrez. Après la troisième visite, on vous donnera la réponse. Nous sommes rentrés pour laver la grand-mère. Et cette fois-ci, la fille qui venait de l'Europe dit, moi, je vais laver ma maman. Sans relève, vous dites, qu'est-ce que vous avez trouvé comme solution? Du moment où il trouve une solution, elle va laver sa maman. On s'est dit, il y a eu communication. Elles se sont entendues. Et le fils, il s'est dit, bon, moi, je vais me débrouiller. Il y a des garçons qui vendent même des sachets. Je vais vendre même des sachets pour soutenir notre maman. Voilà la réponse qu'on a eue.
Et après, elle est morte quelques temps plus tard.
Après, elle est morte quelques temps après, et c'était un grand deuil. Nous, on était honteuses d'aller à ce deuil-là.
Pourquoi?
C'était un grand deuil, parce que cette maman est restée longtemps seule. Mais quand elle est morte, il y avait les neveux, il y avait les oncles, les tantes, toute la famille était autour de cette maman.
Donc vous avez pu réconcilier la famille avant sa mort.
Oui.
Voilà, nous avons un auditeur en ligne, Georges Mukinda de Manono, dans la province du Katanga. Vous voulez également participer, appelez au 081-890-63-79. 081-890-63-79. Georges, bonjour.
Bonjour, monsieur Denis. Bonjour aussi à tous mes invités. Alors, j'ai quelques préoccupations à demander à votre invité. La première, j'aimerais savoir, est-ce que les traitements palliatifs peuvent aussi contribuer à la maladie en cas d'une maladie qui se trouve déjà dans les stades terminales. Alors pour la deuxième préoccupation, j'aimerais demander à l'invité si elles peuvent nous donner des techniques de prévention pour essayer un peu d'éviter la contamination de maladies, parce que c'est dans les stades terminales que les maladies deviennent contagieuses. C'est surtout quand il y a l'émanation des odeurs, cela provoque la contamination. Alors c'est pourquoi j'aimerais demander à nos deux invités si elles peuvent nous proposer des techniques pour éviter cette contamination. Voilà tout, merci.
Bien. Georges de Manono veut savoir est-ce que le traitement palliatif peut conduire à la guérison, sœur Odile?
Bon, c'est assez rare, disons, hein. Mais on a eu des cas, c'était chez des malades qui avaient le sida, mais qui n'étaient pas encore sous ARV, qui étaient vraiment arrivés pratiquement au stade terminal. Et quand on l'a mis sous ARV, qu'on a soigné les symptômes, ils ont récupéré. Donc, ça peut arriver quelquefois, mais ce n'est pas la généralité. C'est quelque chose d'assez exceptionnel.
Mais souvent, vous rencontrez quel type de maladies? Le VIH, des malades souffrant du VIH seulement, ou bien d'autres types de maladies?
Non, le plus grand nombre de maladies que nous rencontrons sont des cas de cancer. Et là, vraiment, dans notre contexte, il y a très peu de traitements possibles, un peu la chirurgie, un peu de chimiothérapie.
Chimiothérapie, mais parfois, si ça atteint la métastase, c'est plus possible.
Non, c'est-à-dire qu'en général, c'est dépisté trop tard. Donc la plupart de nos cas sont des cas de cancer. Les cas de sida, nous en avons de moins en moins, puisque les ARV existent. Mmh. Et nous avons après des cas de diabète, de cirrhose du foie, des paralysies, alors différentes maladies. Mais le plus grand nombre, c'est le cancer.
Les cancers. Et il semble que les malades souffrant du cancer, disons ces malades, souffrent beaucoup, énormément.
Énormément. C'est exceptionnel qu'un malade du cancer n'ait pas de douleur. C'est pour ça que nous insistons sur la prise en charge de la douleur. Et nous venons, il y a seulement 2 semaines, de donner une formation à 35 infirmiers de la place sur la prise en charge de la douleur.
Mais il semble qu'il y a tellement, les malades souffrent, ils deviennent aussi nerveux à un certain moment.
Ah, c'est
et
évident.
Il ne veut pas que les gens s'approchent. Alors comment vous procédez à ce moment-là?
Mais nous faisons l'évaluation de la douleur, hein, et nous apportons des médicaments qui puissent le soulager. Et nous faisons le suivi. Une fois que la douleur est prise en charge, hein, et que le malade n'a plus mal, ça change tout à fait son comportement. On peut même arriver à ce qu'un malade dise « moi je voudrais mourir parce que je souffre trop ». Nous avons eu parmi les premiers malades que nous avons eu, une maman. On lui a donné des calmants, elle avait un cancer du sein. Et le lendemain, quand on a revu sa famille, ils ont dit « c'est la première nuit que nous avons dormi depuis 6 mois ». Notre malade a dormi et nous avons dormi.
Depuis 6 mois.
Depuis 6 mois que la femme était malade. Et nous avons évidemment continué le traitement. Cette malade est morte, mais tout le monde était dans la paix et ça s'est terminé de façon digne. Ce n'est pas digne de mourir en hurlant de douleur.
Voilà. Alors, sœur, je reviens à vous, sœur Albertine. Georges nous dit comment éviter la contamination. Il dit parfois, quand on s'occupe de ces malades grabataires, au stade final de leur vie, il y a parfois des odeurs, il y a le problème de l'hygiène qui revient, et puis on peut aussi être contaminé. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Bon, tous les malades qui sont au dernier stade ne contamine pas s'il n'est pas contagieux. Mais ce que nous pouvons éviter, ce sont les odeurs. Ces odeurs-là, si le malade est pris en charge par la famille, il est bien lavé, les problèmes d'incontinence sont résolus. Si c'est un homme, on a mis des péniflots. Si c'est au village, on n'a pas de péniflots. Nous avons des bouteilles. Si on n'a pas de bouteilles, on peut prendre même un sachet et mettre le sexe de l'homme, si c'est un homme, dans ce sachet-là, pour récolter tout le temps les idylines, pour que le malade soit propre, il n'y aura pas d'odeur. Si ce sont des selles, l'incontinence.
Le cas des diarrhées, par exemple.
Là, il faut vraiment prendre soin de laver les habits à tout moment et de les laver chaque fois qu'il fait des selles. Retirer le pagne ou le linge souillé et les laver aussi, faire la petite toilette. Mais la personne qui fait ça, pour éviter, pour être à l'aise, notre ministre de la Santé lui-même a donné l'éducation sur les lavages des mains. C'est très important. S'il faut éviter les contaminations, il faut se laver les mains.
Il faut se laver régulièrement.
Régulièrement les mains. Et tu ne vas pas toucher quand même des urines à main libre ou des selles à main libre. Il faut mettre des sachets ou des gants, là où on peut trouver des gants. Mais si on n'a pas des gants, on a des sachets. Et après chaque usage, bien laver les mains.
Avec les savons.
Avec les savons, évidemment.
Deux autres auditeurs en ligne, Pacifique Masséa de Bounia, Papi Kalema de Kindou. Pacifique, bonjour.
Bonjour, monsieur de la Radio Kapi.
On vous écoute.
Oui, disons, j'ai bien suivi l'invité du jour. Et concernant, disons, les matériels dont il est en train d'expliquer, je vois que ces matériels sont plus utilisés dans la ville-province de Kinshasa. Qu'en est-il pour nous qui sommes dans des villes, disons, à l'intérieur du pays?
De quel matériel vous parlez, Pacifique?
Les matériels, disons, les dispositifs là que le Vité est en train d'expliciter, par exemple, les sous-formes là de préservatifs qu'on met sur l'organe masculin, ou soit, disons, des linges là qu'on met. Vous comprenez la question.
Oui.
Disons, je voudrais à ce que ce matériel aussi soit aussi utilisé chez nous ici, par exemple, à Bounia et à Boutembo, disons, à l'intérieur du pays. Nous vivons avec ces gens ici, ou soit ces yeux sont plus, disons, négligés parce qu'ils n'ont pas ce matériel et les matériels qu'on est en train d'utiliser là-bas ne sont pas. Manipuler ou utiliser ici en province
orientale.
Qu'en est-il pour nous? Quelles sont les propositions ou quels sont les mécanismes pour que nous aussi nous...
Vous puissiez avoir aussi ces matériels dont les sœurs ont parlé tout à l'heure. Merci. Papi Kalima.
J'ajoute un élément.
Oui.
Je voudrais assurer que cette émission soit passée en Swahili parce que le vieux dont on parle, les gens dont on parle, au moins parlent la langue Swahili. Comment vous voyez?
Bon, c'est une bonne idée, mais moi, je dois faire des cours de Swahili, parce que là, je maîtrise pas encore très très bien la langue. Bon, peut-être que ça va venir, hein, Pacifique. Hein. Merci,
merci,
bonne journée. Papi Kalema, vous êtes à Kindou, bonjour. Papi Kalema.
Bonjour, aujourd'hui, Daniel Kachama.
Bonjour
à nos invités, bonjour à tous les auditeurs de la radio Kapi.
On vous écoute. Hein.
J'ai trois petites questions.
Avant
que je ne les pose, je voulais dire quand même quelque chose. C'est bien que tout le monde peut être abandonné parce qu'il a présenté quand même un état qui est quand même un peu désolant par rapport à la famille. On peut l'abandonner parce que son état de santé n'est pas bien, n'est pas bon. Mais la Bible nous dit, on connaît un bon ami. Un vrai ami qui, lorsqu'on est dans le malheur, la première question que je voulais poser est celle-ci. Nous avons deux sortes de médecines. La médecine curative et la médecine préventive. Laquelle de ces deux est-elle très importante ou bien est-elle primordiale? Ça c'est un. De deux, est-ce que ce sont les médicaments? Ou le médecin guérit, ou c'est Dieu qui guérit.
Bon, écoutez, nous parlons de comment assister les malades à domicile qui sont presque arrivés au stade terminal de leur vie. Alors, les questions que vous posez aujourd'hui ne cadrent pas avec l'émission. Bon, merci, on va peut-être les garder, on va les poser à un médecin qui viendra prochainement. Alors, je reviens à vous, sœur Odile Marchand. Pacifique a parlé du matériel. Tout à l'heure, vous avez parlé même du péniflo qu'on donne aux hommes pour recueillir les urines et puis d'autres dispositifs. Il dit que de l'autre côté, là où il est, ils n'ont pas ces matériels-là. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Bon.
Vous avez parlé des pampers aussi pour adultes.
Oui, mais on a dit que très peu de gens pouvaient le faire. Mais il faut toujours trouver des solutions localement. Même à Kinshasa, nous cherchons des solutions. Par exemple, si on n'a pas une à l'aise pour mettre sur le lit au-dessus d'une à l'aise plastique, on peut mettre un pagne. on peut toujours trouver un pain quelque part. Mmh. Hein? S'il n'y a pas une alaise en plastique, on peut toujours trouver un grand sachet ou quelque chose pour que justement tout le lit ne soit pas mouillé s'il y a un petit accident ou quelque chose. Mmh. Bon, pour ce qui est des dispositifs, mais si on n'a pas, on a dit, on utilise pour les femmes les langes comme pour les bébés. Mais à l'intérieur, on a aussi des tissus qu'on utilise comme couche pour les bébés. Donc, on peut l'utiliser. On a dit pour les hommes, hein, s'il n'y a pas le péniflon, on utilise une bouteille en plastique. Il y en a partout. On prend une grande bouteille, on découpe la tête, on introduit le sexe de l'homme dedans et une urine dans la bouteille.
Et pour les selles, il faut avoir qu'est-ce qu'il faut avoir, des récipients pour eux, sœur Albertine?
Non, pour les selles, si on a besoin des récipients, si cette personne est mise dans la chaise, on peut faire un rond, un rond en bas de la chaise, pour que quand il fait des selles, ça tombe dans les seaux. Mmh. Mais s'il est dans la maison, alité dans son lit, on met les tissus, l'épagne ou un morceau de tissu pour recueillir les selles. Nous mettons comme des langes chez les femmes. Les hommes, en principe, n'aiment pas porter des langes là. Mais on les laisse avec sa culotte. Mmh. On va enlever chaque fois qu'il fait des selles si on n'a pas d'autres moyens. Mmh. Donc on se contente de ce qu'on a.
Même les gants, je crois que les gants, même là-bas, on peut en trouver.
Les gants en usage unique, on peut les en trouver. Mmh. Et les sachets que nous appelons les 08, même à l'intérieur, il y en a. On peut mettre les sachets en dessous, si c'est un nom, récolter les urines aussi dans les sachets. Mmh. On s'adapte avec ce qu'on a sur le terrain.
Voilà, et s'il faut faire cet exercice tous les jours, peut-être qu'il va faire les selles, je ne sais pas moi, plus de 4 fois ou 5 fois par jour, à un certain moment donné, les membres de la famille vont se fatiguer. Sœur Albertine.
Oui, effectivement, c'est un grand travail. Mmh. Avoir un malade à l'idée à la maison, c'est un grand travail. C'est pour ça, dans notre éducation...
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas se fatiguer et continuer à bien prendre en charge la personne?
Nous demandons que tous les membres de la famille s'impliquent. Ce n'est pas seulement l'histoire de la femme ou d'un homme. Mmh. C'est toute la famille que chacun prend au moins un jour ou... Qu'est-ce qu'il va faire pour son malade? Par exemple, dans une famille, on était dans une famille. Il y a un enfant qui faisait nourrir son père. Le grand garçon faisait la toilette de son papa. Et la maman changeait le papa. Le changeait de position pour ne pas avoir d'escarres. Donc, vous voyez qu'à
c'est quoi l'escarre?
Des escarres, ce sont des plaies qui sont dites chez des personnes qui se restent longtemps alitées. Et quand on devient maigre. Du fait d'être appuyé sur une surface dure, la peau qui est devenue sensible forme des plaies. Et ces plaies-là, il faut les soigner. Donc, on a l'avantage de changer de position pour éviter ces plaies-là.
Voilà. Donc, les membres de la famille doivent se répartir les charges pour que ne pas laisser ça à la maman, seule qui va se fatiguer à un certain moment donné. Sœur Odile, qu'est-ce que vous pouvez ajouter par rapport à cela?
Bon. Ce que je peux ajouter, c'est que, en fait, quand la volonté y est, on peut toujours arriver à trouver des solutions. Et je crois que la première chose à faire, c'est que la personne qui va conseiller, qui va éduquer, qui va montrer les soins d'hygiène ou quoi, la première chose à faire, c'est que cette personne arrive à créer avec la famille et le malade un climat de confiance, qu'on soit dans un climat de confiance, de telle façon que chacun puisse exprimer ses besoins et qu'il puisse dire oui, mais pour ça, qu'est-ce qu'on doit faire et on a tel problème et, je crois que c'est très important.
Et si la famille est pauvre, c'est ça le problème. La famille est pauvre, n'a pas assez de moyens pour bien s'occuper du malade. Comment faire à ce moment-là?
Bon, et bien justement, ces soins palliatifs à domicile que nous donnons ne demande pas énormément de, comme je vous disais, énormément d'argent, etc., mais plus du temps et de l'investissement humain. Mais il est certain qu'il faut quelques médicaments dans les familles pauvres. Hein. Il faut arriver au moins une natte, si possible une mousse, il faut arriver à avoir une alaise en plastique, mais c'est aussi le rôle de la famille élargie. C'est aussi le rôle, dans l'Église catholique, il y a le Caritas, il y a les CEVB, il faut mobiliser aussi les personnes de bonne volonté autour. Même dans une autre église, il y a toujours une entraide qui se fait.
Alors, lorsque vous arrivez, par exemple, dans ces familles-là, où il y a un malade gravataire, et il faut administrer des soins, est-ce que vous êtes souvent accueilli à bras ouverts, sœur Albertine? Comment est-ce que vous arrivez à vous faire accepter?
Bon, nous sommes bien accueillis. Pourquoi? D'abord, cette personne nous est recommandée, où il y a une accompagnatrice ou une personne qui nous a informés. Et cette personne, avant de venir chez nous, qui a pris contact avec la famille pour lui demander s'ils ont besoin d'aide, s'ils peuvent accepter que d'autres personnes viennent les visiter. À ce moment, si la famille est d'accord, nous sommes toujours bien accueillis. Parce que quelqu'un qui a son frère malade, qui est resté, et lui-même étant malade aussi, maman Guy a parlé de ça. Ce n'est pas seulement les malades qui souffrent, et les membres de la famille.
Ils sont aussi malades.
Ils sont malades. Ils sont bourrés de soucis, de problèmes. Est-ce que cette personne va guérir? Maintenant, il n'a plus de médicaments. Il va faire quoi? Il n'a plus le temps de sortir. S'il sortait, il est obligé de rester dans la maison avec son frère malade. Donc, nous sommes bien accueillis parce qu'on attend un peu d'aide. Si ce n'est pas seulement l'aide matérielle, mais la visite est très importante.
La visite est très, très importante. Alors, mais votre communauté Magnifica est seulement à Kinshasa ou vous êtes dans toutes les provinces de la République, Sœur Odile?
Bon, nous sommes dans 13 diocèses de la République. Mais le service de soins palliatifs est un apostolat de la communauté. Jusqu'à maintenant, c'est un apostolat que nous avons développé à Kinshasa. Ailleurs, à Matadi, nous avons formé des personnes du diocèse et des membres de la communauté. Mais ailleurs, c'est un apostolat qui ne s'est pas encore développé.
À Matadi, vous avez formé.
Oui, nous avons formé parce qu'il y a un abbé du diocèse qui est très intéressé par la visite des malades, par la pastorale de la santé, et on a formé des infirmiers, des accompagnateurs, toute une équipe, et il semble qu'ils fassent un excellent travail dans la communauté.
Et qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour étendre cette action dans les autres provinces? Parce que le pays est grand, les besoins sont énormes.
Oui, eh bien, en fait, nous avons, disons qu'en dehors des soins aux malades, nous avons beaucoup de modules de formation. Et nous sommes prêts à accueillir des personnes qui veulent être formées. Ou
particulièrement les infirmiers?
Il y a et les infirmiers et les visiteurs de malades, qu'on appelle les accompagnateurs. Il faut les deux, il ne faut pas seulement des infirmiers. Même des médecins, il y a un médecin de Bukavu qui est venu se faire former. Alors, quand ils sont de passage à Kinshasa, ils peuvent nous contacter. On organise une formation. Ou s'ils ont les moyens de payer une formation, il y a quelques membres de l'équipe qui peuvent aller sur place donner la formation.
D'accord. On va accueillir un auditeur et puis on va continuer. Albert Kakoulé, vous êtes à Goma, au Nord Kivu. Bonjour.
Oui. Bonjour, les journalistes et aussi aux auditeurs de l'Europe.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire, Albert? Parlez un peu plus fort.
Oui, j'avais deux questions. La première, j'allais demander si existe un enfant garçon de prendre soin de son parent femme, sa maman donc.
Voilà. Allô? Oui, c'est la seule question.
Et, une autre question, j'allais juste demander si donc cet enfant ou bien un homme qui prend soin de son parent femme ou bien une femme qui prend soin de son parent papa, est-ce qu'il peut voir sa nudité lorsqu'il est en train de prendre soin de lui? Est-ce que ça ne peut pas déranger sa psychologie dans sa vie future? Étant donné que dans la culture africaine, c'est vraiment extravagant de voir la nudité tantôt de son père et de sa maman.
D'accord. Merci, Albert. Nous avons également Aline Kasongo à Kolwezi. Bonjour.
Bonjour, Radio Pati. Moi, c'est Kasongo Lanka depuis Kolwezi.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Je voulais juste intervenir par rapport à ceux qui ont cette habitude de la DGP, les membres de leur famille qui sont malades.
Oui.
Ouais. Alors, si vous n'êtes pas capable de laver, soit de faire la lessive de votre membre de la famille, il faut soit engager quelqu'un qui peut faire cela et puis le payer à la fin de la journée. Venez de jeter votre membre de la famille s'il est malade.
Voilà, il propose, si vous n'arrivez pas à le faire, engager quelqu'un, vous allez le payer, et il va s'occuper de... Alors, sœur Albertine, vous avez suivi la préoccupation d'Albert. Est-ce qu'un garçon peut, parce qu'il doit donner les soins, il peut voir la nudité de sa mère, ou une dame, voir une jeune fille, voir la nudité de son père, parce qu'il faut les laver, il faut changer les vêtements, tout ça? Avec la culture africaine.
Dans notre culture africaine, avec nos tabous, mais il faut briser les tabous à un certain moment. Il faut briser les tabous. Si ses parents, cette maman ou ce papa, il est dans ma maison et que ça sent mauvais, qui est plus mauvais? C'est d'éviter cette odeur-là ou de briser les tabous? Je pense, cette odeur-là, moi aussi, je vais la sentir. Mmh. Et ça sera très mauvais pour toute la maison et ça va mettre tous les membres de la maison mal à l'aise. Nous devons briser les tabous. Si les parents, les papas refusent que moi, sa fille, je les lave, je cherche les moyens, comme il y a une autre frère qui a donné cette proposition, d'engager une personne pour qu'il puisse laver mon parent et lui donner ce dont il a besoin, à partir de mon argent. Mais si je n'ai pas l'argent.
Voilà, si on n'a pas l'argent.
Si je n'ai pas l'argent, derrière ces tabous, moi je vais laver ma maman ou je vais laver mon papa, parce que je veux qu'il soit propre. Mes amis les verront propres. Et là, ils vont me féliciter. Mais ils viennent chez moi et que ça sente mauvais, ils vont dire quoi? C'est toute l'histoire qui va parcourir dans les quartiers. Son père est abandonné. Et ce sera ma honte.
Voilà. Alors, sœur Odile, les difficultés, quelles sont les difficultés que vous rencontrez souvent lorsque vous faites ce travail?
Bon, une grande difficulté, on en a déjà parlé, c'est la pauvreté des familles. Parce que quand on a soigné un malade pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, on a été à l'hôpital, on a fait beaucoup pour lui, on est ruiné. Donc c'est une difficulté. Donc la grande pauvreté des malades. Où il n'y a vraiment plus rien, pratiquement à la maison, pour s'occuper de lui. Une autre difficulté, c'est qu'il faut trouver des personnes qui fassent cet apostolat de façon bénévole. Parce que où est-ce que vous allez trouver l'argent pour payer quelqu'un qui va financer une telle chose? Donc, il faut trouver des personnes qui vraiment aient d'abord les qualités pour le faire, et qui a assez de cœur pour le faire bénévolement. Ce qui n'est pas toujours facile, parce que tout le monde vit dans de grandes difficultés. Nous avons essayé de résoudre le problème avec nos accompagnatrices. Nous en avons à peu près 80, qui sont membres de la communauté du Magnificat. Nous leur demandons de consacrer seulement 1 ou 2 journées par semaine à la visite des malades, pour qu'elles puissent continuer à vendre au marché ou à faire leurs autres activités. Mais vous ne pouvez pas prendre quelqu'un à temps plein et ne rien lui donner.
Et rien lui donner, ça marche pas. D'accord. Un numéro par lequel on peut joindre votre communauté. Sûrement, il y a des personnes qui sont intéressées, qui voudraient être formées dans d'autres provinces. On peut vous joindre à quel numéro?
Mon numéro, c'est 081-502-4315.
Voilà, 081-502-4315. Nous disons merci à Sœur Odile Marchand, responsable des soins palliatifs à domicile de la communauté du Magnificat. Et nous disons également merci à Sœur Albertine Mafouali, infirmière superviseure au programme des soins palliatifs de la communauté du Magnificat. Merci et à la prochaine.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.